Midi et demi en temps universel. Il est 14h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. Tidjane Thiam radié de la liste électorale en Côte d'Ivoire est de facto écarté de la présidentielle du 25 octobre. La justice estime que le candidat du PDCI a perdu sa nationalité ivoirienne. Décision politique accuse l'ancien parti unique. Il n'y aura pas de plan B, assure de son côté Tidjane Thiam. Quelles options sont désormais sur la table? Le politologue ivoirien Geoffroy Julien Kouaou est notre invité. Emmanuel Macron à Madagascar, le président français était reçu ce matin par son homologue Ange Radzoel. Au programme, les questions de coopération bilatérale, énergie, mémoire et sécurité. Et puis le concert Solidarité Congo hier soir à Paris. 11 000 personnes ont applaudi Gims, Youssoupha ou encore Fally Ipupa. Les recettes sont destinées aux enfants victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Une semaine à peine après avoir été investi par son parti, le PDCI, comme candidat à la prochaine présidentielle, Tidjane Thiam se heurte à la justice en Côte d'Ivoire. Hier, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné sa radiation de la liste électorale. Le tribunal a estimé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne en obtenant la nationalité française en 1987. Et donc, il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur le fichier en 2022. Cette décision, le PDCI l'a conteste. Binta Diagne, vous êtes la correspondante de RFI à Abidjan, vous êtes au siège du PDCI. Ce matin, les militants de l'ancien parti unique étaient conviés à une séance d'information. Quel était l'état d'esprit?
Alors, les militants sont mobilisés autour des députés du PDCI qui, dans une déclaration, ont réitéré la même ligne de conduite que celle énoncée hier soir par Tidjane Thiam. Il reste le candidat du parti à la présidentielle. Je n'accepte pas cette radiation. Elle est injuste, injustifiée et incompréhensible, souligne Tidjane Thiam dans une vidéo postée hier nuit sur les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de plan B ni de plan C, insiste le leader du PDCI actuellement en Europe. Les députés du PDCI ont par ailleurs demandé ce matin à leurs partisans de se rassembler demain, jeudi, en marge de l'audience qui doit se tenir au tribunal. C'est en effet demain qu'une autre affaire doit être jugée concernant la légalité, cette fois-ci, de l'élection de Tidjane Thiam à la tête du parti en décembre 2023.
Comment la décision de la justice ivoirienne de radier Tidjane Thiam de la liste électorale est-elle perçue dans le reste de la classe politique?
Alors l'URD, le parti dirigé par Daniel Bonnic-Lavry, dénonce cette décision. L'élection semble s'inscrire dans une logique d'exclusion systématique des figures majeures de l'opposition, affirme ce parti d'opposition. Le Katiam n'est pas isolé, relève l'URD dans un communiqué. Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé ont tous été écartés par des décisions judiciaires ou administratives. Fin de citation. Pas de position officielle pour l'instant du côté du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Il faudra attendre samedi avec la réunion du comité central. Il y a 10 jours déjà à Dabou, Laurent Gbagbo avait annoncé la couleur. Il a dit qu'il ferait tout pour participer au scrutin du mois d'octobre. Au RHDP, enfin, on rejette toutes les accusations portées par l'opposition. Le droit a été dit, affirme Kobenan Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP. Le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir exécutif. La justice est impartiale, poursuit ce responsable qui rejette également l'idée d'un dialogue constructif proposé par Tidjane Thiam hier nuit.
Binta Diagne, correspondante de RFI à Abidjan. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le politologue ivoirien Geoffroy Julien Kouaou est notre invité. Après Mayotte et la Réunion, Emmanuel Macron poursuit sa tournée dans l'océan Indien. Le président français atterrit ce matin à 10h30 à Antananarive, où il s'est aussitôt entretenu avec son homologue malgache Ange Radzoel. À l'issue de leur réunion, les deux présidents ont fait de premières déclarations conjointes à la presse. Une première annonce forte, Pauline Le Troquier. Emmanuel Macron annonce que le géant de l'électricité française EDF prend des parts dans le plus grand projet hydroélectrique de Madagascar.
Oui, tout à fait, Nicolas. Un nouveau pacte d'actionnaires a été annoncé pour construire et exploiter le grand barrage de Vouloubé, situé sur la côte est du pays, le long de la rivière Ivunj. À l'intérieur de ce pacte, EDF donc entre à hauteur de 37,5% à égalité avec le conglomérat Action détenu par l'homme d'affaires malgache Asnan Iriji. Alors cette nouvelle configuration doit relancer un projet enlisé depuis des années. Il avait été annoncé dès 2015 par l'ancien président malgache Eradzonar Mamsen. Il faut savoir que l'infrastructure est l'un des seuls moyens pour Madagascar de combler le déficit de production énergétique sur l'île. 120 mégawatts de puissance annoncée sur ce barrage, un coût de 600 millions d'euros, et il doit permettre à 2 millions de personnes d'avoir accès à l'énergie. Pour rappel, à Madagascar, 2/3 de la population est privée d'accès à l'électricité aujourd'hui.
Pauline, les deux présidents ont également évoqué d'autres enjeux, des enjeux clés de la coopération bilatérale franco-malgache, à commencer par celui de la mémoire.
Oui, Madagascar est au cœur de notre stratégie de restitution, a déclaré Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Pour rappel, Paris vient d'acter la restitution de crânes de guerriers malgaches tués pendant la colonisation de l'île. Celle-ci doit avoir lieu en août prochain. Et puis, Emmanuel Macron s'est aussi dit prêt à apporter un soutien ferme à Madagascar en termes de défense et de sécurité. Et ce, dit-il, face, je cite, aux prédations et provocations géopolitiques. Première preuve de cet engagement, en ce moment même, l'opération Tulip se déroule dans le nord-ouest de Madagascar. Un exercice militaire régional où la France déploie, Nicolas, 500 hommes.
Pauline Le Troquier en direct d'Antananarive. C'est l'armée ougandaise qui l'annonce dans un communiqué. Le général Muhoozi, chef d'état-major et fils du président Museveni, a rencontré hier près de Kampala une délégation de personnalités présentées comme des dirigeants de la CODECO. Cette milice CODECO est particulièrement pointée du doigt dans les violences meurtrières qui ensanglantent la province congolaise de l'Ituri. Ces dernières semaines, elle s'était affrontée, la CODECO, avec les forces ougandaises dans les territoires qui longent la frontière avec l'Ouganda. Florence Maurice, que sait-on de cette rencontre ?
Eh bien, dans son communiqué, l'armée ougandaise affirme qu'il s'agit, je cite, d'une étape importante dans les efforts de paix régionaux en cours et que lors de la rencontre, la délégation aurait exprimé ses regrets après les récents affrontements qui ont opposé la CODECO et l'armée ougandaise. Mais ce midi, parmi les observateurs, la prudence reste de mise. Selon l'armée ougandaise, cette délégation était dirigée par Étienne Dundji Kulukpa, le vice-président de la communauté Lendu. Il est considéré comme un notable, c'est une personnalité civile, même si la CODECO est essentiellement composée de Lendu et se présente comme défenseuse des intérêts de cette communauté. Sur la photo diffusée à l'issue de la rencontre par l'armée ougandaise, figure également un commandant de la CODECO, Alfred Bahati, un homme de terrain, lui donc. Cependant, la milice CODECO est divisée entre plusieurs factions et ne s'est pas encore exprimée sur cette rencontre. Difficile donc de savoir quel contrôle cet homme exerce sur les combattants. Les forces ougandaises sont déployés en Ituri depuis février, d'abord à Bunia puis à Mahagi, non loin d'importantes réserves pétrolières, et sur la route nationale 27, une route essentielle pour les intérêts économiques ougandais. Ce déploiement alimente depuis le début de nombreuses suspicions sur le rôle de Kampala dans le conflit en cours et sur ses intentions en Ituri, d'autant que le général Muhoozi a récemment présenté ces territoires comme une zone d'influence, je cite, de son pays, l'Ouganda.
Initialement programmé le 7 avril, le concert Solidarité Congo a finalement eu lieu hier soir à l'Accor Arena à Paris. Un concert destiné à lever des fonds en soutien aux enfants victimes du conflit dans l'est de la RDC. Près de 11 000 spectateurs étaient dans la salle. Et sur scène, une trentaine d'artistes, dont les superstars Fally Ipupa, Youssoupha, Gims ou Dadju. Reportage Lisa Fabian.
Un maximum de bruit pour le Congo déjà.
Les spots sont braqués sur la scène où défilent pour quelques chansons toutes les stars congolaises de la musique. Des ambassadeurs superstars comme Fally Ipupa ou Gims et des invités de marque tels le malien Sidiki Diabaté. Au-delà du casting en or, c'est le geste qui compte pour Anelka et Bovary.
Tout ce qui se passe à l'est du pays, ça nous touche tous en fait, à travers le billet que je vais acheter pour soutenir le pays en fait.
Et les fonds là, ça va aller à l'est pour aider nos compatriotes qui sont là. C'est une manière de montrer notre patriotisme.
Des survivantes du conflit ont partagé leurs témoignages. Plusieurs associations participaient à cet événement. Divine Muntu est la coprésidente de l'ONG Congo Téléma.
Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on parle de ce conflit. Et du coup, les artistes, le fait qu'ils nous rejoignent, ça permet de diffuser l'information. Il y a beaucoup de jeunes. Et donc, c'est bien que les jeunes puissent recevoir ce message. L'objectif, c'est que tout le monde sache ce qui se passe.
Le message a en tout cas touché Marine, 18 ans, qui serre dans ses mains un grand drapeau de la RDC.
Moi, j'ai des amis qui sont congolais, qui m'en ont parlé. Et du coup, grâce à ça, j'ai appris. Et après, j'ai vu sur les réseaux, avec TikTok. Je me suis documentée un petit peu pour savoir. Les artistes qu'on vient voir, c'est des artistes qui sont vraiment très écoutés, surtout par la jeunesse. Donc, c'est sensibiliser la jeunesse. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important, je trouve.
Les recettes seront versées à l'association Give Back Charity du chanteur Dadju, qui doit assurer leur redistribution en RDC.
Reportage à l'Accor Arena, signé Lisa Fabian. Dans l'ouest du Mali, plusieurs dizaines de corps découverts près du camp militaire de Kouala, dans la région de Koulikoro. Découverte macabre dans la nuit de lundi à mardi par des personnes qui recherchaient leurs proches, arrêtés par l'armée malienne et le groupe Wagner le 12 avril dernier dans la localité proche de Sebabougou, Abdoulaye Diko.
Plusieurs sources communautaires et des habitants confirment à RFI cette découverte. Aucune certitude sur le nombre exact de corps retrouvés, ni sur leur identité. Selon un témoin, il est difficile d'identifier les victimes à cause de l'état de la décomposition avancée des corps. Sur certains d'entre eux, explique ce témoin, il ne reste que la peau et les os car il ne s'agit pas de simples squelettes. Ce témoin raconte aussi sa frayeur. Il faisait nuit, dit-il, et on est très proche du camp militaire. On a vite fui par peur d'être vu. Depuis plusieurs jours, je suis à la recherche de mon frère et de mon cousin arrêté par l'armée et Wagner à Sebabougou, raconte un autre témoin. J'ai peur qu'il soit parmi les corps, s'inquiète-t-il. Cette découverte intensifie l'angoisse des proches de la soixantaine de personnes arrêtées samedi 12 avril 2025 à Sebabougou par l'armée malienne et le groupe Wagner. Elles ont été amenées vers une destination inconnue et depuis, leurs proches n'ont plus eu aucune information sur leur sort. Les FAMA n'ont pas communiqué ni sur ces arrestations, ni sur la découverte de ces corps.
Le Programme alimentaire mondial annonce qu'il devra interrompre le mois prochain son aide en Éthiopie pour 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition. Les besoins dans ce pays augmentent, 1 million de personnes déplacées internes, des réfugiés qui affluent du Soudan et du Soudan du Sud, la sécheresse. Mais les moyens, eux, diminuent et en plus des coupes de l'USAID, les dons sont partout en baisse. Claire Neuville est la porte-parole du PAM en Éthiopie.
Le monde connaît actuellement de nombreuses crises qui se concurrencent. En outre, nos donateurs ne nous accordent pas les mêmes niveaux de financement que les années précédentes. Nous attendons la moitié des fonds que nous avons reçus en 2024. Nous sommes complètement à court d'aliments nutritionnels enrichis qui sont des traitements pour les enfants et les mères souffrant de malnutrition et qui ont besoin de ce soutien. Nous n'avons plus ces produits et nous manquons dangereusement de fonds. Nous estimons qu'environ 3 600 000 personnes pourraient perdre l'accès à une aide alimentaire et nutritionnelle vitale dans les semaines à venir si nous ne recevons pas maintenant les financements dont nous avons besoin.
Des propos recueillis par Charlotte Cossé. Le président kényan William Ruto en visite d'État en Chine. Il est arrivé hier soir à Pékin pour des discussions bilatérales avec Xi Jinping. Sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Alban Tiroir.
Nous cherchons à approfondir et élargir les liens historiques, économiques et culturels entre le Kenya et la Chine. C'est ce qu'a écrit sur X le président William Ruto à son arrivée à Pékin hier. Son déplacement s'inscrit dans une stratégie de diversification de la part de Nairobi, note l'économiste Hassan Iraki. Diversification d'abord pour de nouvelles opportunités de marché, alors que les produits kenyans sont touchés par la surtaxe douanière de 10% imposée par Donald Trump. Surtout, à l'heure actuelle, l'équilibre commercial entre Pékin et Nairobi est en faveur de la Chine. Le Kenya souhaite stimuler ses exportations, notamment pour des produits agricoles comme le thé. Diversification également dans les financements pour des projets de développement. Nairobi peine déjà à faire face au poids de sa dette et espère donc négocier des partenariats public-privé avec Pékin. Au centre des discussions, il y aura notamment l'extension de la ligne de chemin de fer partant de Naivasha, au nord-ouest de Nairobi, jusqu'à Malaba, à la frontière avec l'Ouganda, ou encore le projet d'autoroute reliant Nairobi à Mao Summit, plus au nord. Nairobi et Pékin devraient signer plusieurs accords dans différents secteurs, commerce, infrastructure, éducation ou encore transfert de technologies. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Afrique Midi sur RFI.
Il est 14h44 à Paris, dans la deuxième partie d'Afrique Midi, les sports du football, les arbitres professionnels en grève au Cameroun. Et puis nous découvrirons Liti Liti, premier long métrage du cinéaste sénégalais Mamadou Kouma Gueye. Il retrace le déguerpissement de sa mère de la maison familiale pendant le chantier du TER de Dakar en 2021. Au Cameroun, les arbitres des championnats de football professionnel masculin et féminin sont donc en grève depuis lundi. Ils réclament à la FECAFOOT des arriérés de primes pour un total de 300 millions de francs CFA. Des matchs pourraient donc être annulés, même si la fédération affirme le contraire, Joël Wadem.
Trois rencontres du championnat de première division sont prévues ce mercredi. Malgré la grève des arbitres depuis lundi, Faustin Bida, le secrétaire général du CTFP, la structure de la Fédération camerounaise de football en charge de l'organisation des championnats, pense que ces matchs se joueront bien.
Nous avons pris les dispositions pour que les officiels puissent diriger ces matchs-là. Au niveau interne, le président de la Fédération camerounaise de football a donné des instructions pour qu'on puisse éponger totalement ce qu'on leur doit. On a pris des dispositions pour que dans l'avenir, que cela aille plus rapidement. C'est pour ça qu'à partir de cette 21e journée, nous pensons que beaucoup de choses vont évoluer.
L'Association camerounaise des arbitres de football pose comme préalable au retour des hommes et femmes en noir sur les terrains le paiement intégral des 300 millions de francs CFA de primes que lui doit la FECAFOOT. L'ancien arbitre international Alioune Sidi est le président de la CAF.
Nous n'avons jamais eu ce problème. On est dépassé. Nous voulons qu'on essaye de payer les arbitres. Nous allons continuer le championnat tranquillement. On a demandé aux arbitres de rester soudés. Et si un arbitre tentait d'aller dans l'aire de jeu, nous, l'association des arbitres de football, nous allons les radier.
Si les rencontres prévues ce mercredi ne se disputaient pas du fait de la grève des officiels, ce serait une grande première dans l'histoire du football camerounais. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
C'est un documentaire consacré aux déracinés du progrès. Dans son premier long métrage, Liti Liti, le cinéaste sénégalais Mamadou Koumagay suit sa mère, contrainte de quitter la maison familiale pour faire place au tout nouveau TER de Dakar en l'an 2021. Pendant plus de 5 ans, il a filmé et ses images alternent entre l'intime et la froideur des grands travaux. Juliette Dubois a vu le film.
Sornandia est la mère de Mamadou Koumagay, a passé 40 ans dans sa maison du quartier du Guinaoraï en banlieue de Dakar avant d'être expulsée pour laisser place au TER comme 250 000 riverains, puis relogée dans un nouveau quartier. Le réalisateur a d'abord commencé à la filmer pour son usage personnel, pour documenter le départ de la famille.
Il y a des ruines. À partir de ces ruines-là, il y a notre mémoire, il y a des souvenirs. Moi, en tant que j'ai fait des études d'histoire, l'histoire permet aussi de continuer à vivre dans le temps. Donc, faire un témoignage, mais essayer de sauver le maximum entre le mémoire que j'appelle souvent l'âme du quartier aussi.
Les images des destructions des maisons et du désespoir de la mère de Rouma, arrachée à ses racines, alternent avec les images promotionnelles du TER et les discours d'hommes politiques vantant la modernité, un tiraillement que le réalisateur a voulu mettre au cœur de son film.
Il est question aussi de faire une introspection. On veut le développement, mais il faut penser aussi quel développement on veut. En tout cas, ce modèle de développement visé par le TER pour aller plus vite, ça a aussi des dégâts en supprimant beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens humains.
Liti Liti a été présenté en avant-première à la presse à Dakar avant d'être projeté au festival de documentaires suisse Vision du Réel début avril. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Liti Liti, ce film se revendique comme un projet 100% africain. Il est coproduit avec une société sénégalaise. Il est distribué par la jeune société Wokumba Film. Pour la directrice de cette société, Oumou Dieganian, il est essentiel que ce genre d'œuvre soit promu au niveau national.
Pour nous, la vente des films est aussi importante que la nationalité des films en production. Parce que, par exemple, ce film de Mamadou Koumagay, moi, étant quelqu'un qui est né au Sénégal, qui a grandi ici, qui est en contact avec cette histoire, la façon dont je pourrais le promouvoir, je me dis que quelqu'un qui ne s'y connaît pas ne pourrait pas le faire. Et aussi, c'est à la société de vente qui définit, en fait, la stratégie de vente du film. Et ça, c'est très important. D'habitude, les films font le tour du monde pour après arriver chez nous, 2 années après. Et pour nous, il faut que ça sèche parce qu'on fait ces films d'abord pour nous-mêmes et pour l'autre aspect qui est plus économique, parce que aussi la vente, c'est des pourcentages. Et si ce n'est pas une société locale qui vend ces films-là, si une autre société le fait, l'économie va rester dans cette société-là. Alors que nous, on n'arrive pas encore à rentabiliser nos films. On n'arrive pas encore à parler vraiment d'industrie en Afrique. Donc pour nous, c'est le moment.
Des propos recueillis par Juliette Dubois. Il est 12h49 à Dakar. Anne Kantner, les grands titres de ce mercredi 23 avril.
La guerre qui se poursuit à Gaza. De nouvelles frappes israéliennes ont tué 25 personnes selon les secours, dont les corps sont pour certains toujours bloqués sous les décombres. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, appelle lui aujourd'hui le Hamas à libérer les otages israéliens. Le gouvernement israélien toujours silencieux depuis la mort du pape François, aucune réaction officielle. Des dizaines de milliers de fidèles sont en revanche rassemblés dans et autour de la basilique Saint-Pierre à Rome pour se recueillir devant la dépouille du souverain pontife. Le président ukrainien enfin appelle à un cessez-le-feu immédiat et sans condition alors que les alliés de l'Ukraine sont réunis à Londres. Rencontre sans espoir de faire bouger les choses. D'ailleurs, les ministres des Affaires étrangères qui devaient participer n'ont pas fait le déplacement. Ce sont des responsables de moins haut niveau qui assistent à la réunion. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam est donc écarté de la présidentielle. Le chef du PDCI devait défendre les couleurs de l'ancien parti unique lors du scrutin du 25 octobre. Il a été radié de la liste électorale par la justice qui estime qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne en obtenant la nationalité française en 1987. Le politologue et essayiste ivoirien Geoffroy Julien Kouao est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Geoffroy Julien Kouao.
Bonjour.
Que vous inspire l'élimination de facto de la prochaine présidentielle de Tidjane Thiam?
Cette élimination compromet l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. En ce sens que les principaux opposants que sont M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Soro Diom et maintenant M. Tidjane Thiam ne figurent pas sur la liste électorale subséquemment, ne pourront pas être candidats à cette élection, ce qui pourrait compromettre la légitimité de ce scrutin.
Le camp Thiam dit qu'il s'agit d'une manœuvre du pouvoir pour éliminer le seul candidat d'opposition sérieux. Vous êtes d'accord?
Oh bon, ça c'est une appréciation partisane. Je pense que la justice a rendu une décision conformément au droit positif ivoirien. Il appartient désormais au PDCI de l'apprécier à sa juste valeur et certainement de présenter un autre cheval pour la bataille présidentielle de 2025.
Alors, Thiam dit qu'il n'y aura pas de plan B ou de plan C au sein du PDCI. C'est moi ou personne, dit-il. Que pensez-vous de cette ligne?
Je pense que c'est vrai que la décision vient de tomber. Monsieur Tidjane Thiam a reçu là un véritable coup de tonnerre, mais je pense que le parti saura raison garder et trouver un autre candidat, autre que Monsieur Tidjane Thiam, parce qu'aujourd'hui, le PDCI, après 15 ans de gouvernance du RHDP, a de véritables chances d'accéder au pouvoir.
Oui, c'est-à-dire que le parti aurait intérêt, selon vous, à présenter un autre candidat. Qui, par exemple?
Le PDCI a beaucoup de cadres tels que Monsieur Maurice Kakou Tikaoué. Il y a d'autres personnalités comme Monsieur Akossi Bengio et même Monsieur Jean-Louis Billon qui lui figure bel et bien sur la liste électorale.
La décision de la justice ivoirienne prise contre Tidjane Thiam n'est pas susceptible de recours, ça on l'a bien compris, mais est-ce qu'il y a tout de même une possibilité encore que Tidjane Thiam puisse se présenter? Est-ce qu'une nouvelle révision de la liste électorale serait envisageable selon vous?
Selon le président de la commission électorale indépendante, il y aura bel et bien une révision de la liste électorale en 2025, mais après l'élection présidentielle d'octobre. Ce qui veut dire que, sur le plan juridique et judiciaire, M. Tidjane Thiam ne pourra pas participer à cette élection, mais la seule porte de sortie qui s'offre à lui, c'est-à-dire l'éventualité d'une révision de la liste électorale, paraît impossible au regard des affirmations du président de la commission électorale indépendante.
Vous l'avez dit, la présidentielle du 25 octobre se déroulera sans Laurent Gbagbo, sans Tidjane Thiam. Diriez-vous que c'est un boulevard qui s'annonce pour le RHDP au pouvoir, que son candidat soit ou pas d'ailleurs Alassane Ouattara qui n'a pas fait connaître ses intentions?
Non, je ne le pense pas. Il suffit simplement pour l'opposition de faire preuve de réalisme politique et de présenter d'autres personnalités. Comme je vous l'ai dit, le RHDP a fait 15 ans de pouvoir. Vous le savez très bien, gouverner, c'est décevoir. Et nonobstant quelques réalisations, il y a de véritables attentes au niveau de la population. Tout va dépendre de l'attitude de l'opposition, d'accepter d'abord cette réalité et de présenter de nouveaux chevaux. Dans tous les cas de figure, elle n'a pas autre chose à faire que d'aller à ces élections.
Oui, c'est-à-dire que pour vous, l'opposition n'a absolument pas intérêt à adopter la stratégie de 2020, celle d'un boycott actif des élections.
Non, je pense que la Côte d'Ivoire a assez souffert des crises électorales, surtout au niveau de l'élection présidentielle. Ce dont ont besoin les Ivoiriens, c'est les élections paisibles. Et certes, des personnalités importantes ont été disqualifiées par des décisions judiciaires, mais je pense que l'opposition regorge de nombreuses personnalités et elle devrait faire preuve de réalisme en présentant des plans B qui pourraient, comme dans le cas du Sénégal tout récemment, permettre une véritable alternance politique.
Merci Geoffroy Julien Kouao. Je rappelle le titre de votre dernier livre, hein, Violence électorale et apologie de l'impolitique, faut-il désespérer de la Côte d'Ivoire. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications, rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Et on part à présent au Maroc, où un musée d'un genre particulier a ouvert ses portes début février. Il retrace, ce musée, l'histoire de ce qui est sans aucun doute la grande passion du royaume, le football. Il porte les ambitions marocaines dans ce sport, un peu plus de 6 mois de la CAN que le pays organise, Mathias Reynal.
Projet porté par la Fédération Royale Marocaine de Football, c'est au rez-de-chaussée de son siège de Salé que le musée a été installé.
Zaïd Ouakrim, conservateur du musée du football marocain. C'est un projet qui a commencé en 2021. Monsieur Fouzel Khaja, président de la Fédération, a fait appel à un comité scientifique qui se compose d'éminents journalistes de la scène footballistique nationale, aussi des experts, des spécialistes de l'histoire du football marocain.
Le résultat, 2100 mètres carrés d'exposition qui raconte plus de 100 ans de football au Maroc, du premier match disputé dans le pays à la fin du 19e siècle à l'épopée qatarienne de 2022.
Le deuxième espace du musée, Terre de Pionniers, c'est un hommage aux joueurs pionniers, donc les premiers joueurs qui sont devenus professionnels, et aussi les clubs pionniers.
Quel joueur a marqué cette époque?
Oh, moi je peux dire l'Arbi Ben Barak.
Celui que l'on a surnommé la Perle Noire et qui fut en son temps ce qui est le fameux Pelé de nos jours.
Zaïd Ouakrim a voyagé un peu partout au Maroc pendant 2 ans pour réunir tous les objets exposés ici.
On a eu la chance d'ailleurs de récupérer des maillots des équipes adverses que nos joueurs ont pu échanger à la fin de chaque match.
Parmi les reliques du musée, le maillot de Romelu Lukaku, porté par l'attaquant belge lors de la victoire du Maroc 2-0 au premier tour de la Coupe du Monde 2022. Avec ce musée, le Maroc met en scène son soft power.
Toujours le football au Maroc a été une sorte de discussion et de contact avec les non-marocains. Et là, actuellement, donc, le musée joue un rôle important dans tout ce qui concerne la diplomatie marocaine. Donc on reçoit des visites de gens très importants.
Est-ce que c'est beaucoup aussi de représentants africains? Parce que justement, le foot, c'est quelque chose de très important sur le continent. Et pour renforcer les liens avec des pays du continent, c'est un beau moyen.
Tout à fait, tout à fait. Comme vous savez, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive bientôt au Maroc en décembre. Les gens s'intéressent plus qu'avant au Maroc.
Dans quelques mois, le Maroc aura une nouvelle occasion de briller, d'ajouter une ligne à l'histoire du football continental en organisant la CAN à la maison. Mathias Reynal, de retour de Salé, RFI.
Et c'est à Salé que se termine cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Pierre Vallée. Merci à eux. Et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous. On se retrouve dans une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Vous le savez, il y a d'autres options. Une demi-heure d'informations en full day ou bien en portugais, selon les régions d'Afrique d'où vous nous écoutez. À tout de suite.
Actualité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Demain, selon l'OMS, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Le docteur Thembo Batili, oncologue, répond à vos questions. Vendredi, les femmes âgées de plus de 60 ans sont plus touchées par l'arthrose que les hommes. Peut-on prévenir cette maladie articulaire du cartilage ?
Priorité santé avec Sunou Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI.
Guten Abend, bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Oh, Wie geht's?
Guten Abend. On essaye de répéter et d'apprendre avec vous et d'en apprendre plus.
Radio Foot International, le foot des 5 continents.
Nagelsmann, on connaît, hein, s'il peut tirer un peu la couverture à lui, il n'hésitera pas à le souligner de peur que les journalistes l'oublient.
Je pense que dans le top melon, il doit être sur le podium, assurément, et il l'assume.
Radio Foot International, du lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU sur RFI.